Royaume-Uni.
Un régime aboli, Marion, mais dont les effets se poursuivent aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus. On va d'abord parler défense, sécurité et je vous emmène en Allemagne.
Midi 10 sur la Clé des Ondes, vous écoutez le plat de résistance et comme chaque vendredi dans ce plat de résistance, on rediffuse des passages de l'émission Achaïra. Achaïra, émission de pollinisation des idées libertaires qui a lieu sur notre antenne tous les premiers lundis du mois de 20h à 22h et que vous retrouvez bien sûr en intégralité en podcast sur notre site laclédesondes.fr. Voilà, tout de suite, Achaïra, la rediff.
Et tout de suite, nous lançons la chronique de la désobéissance, la chronique d'André Bernard. À toi, Esmeralda.
Alors, cette chronique s'intitule « Dès aujourd'hui ». C'est une expression qui pourrait se dégager des textes de Gustave Landauer, né en 1870, mort en 1919. On ne connaît de Landauer que sa participation, en avril 1919, à la République des Conseils de Bavière. Et en mai, au fait qu'il fut battu à mort par des soldats des corps francs, sa vie et sa pensée étant alors éclipsées par cet assassinat. Mais comment expliquer que, jusqu'à tout récemment, l'œuvre de Landauer ait été aussi négligée? Dans l'introduction à « Communauté et révolution » chez Gustave Landauer, édité chez Klimsit en 2023, Anatole Lucet écrit que « l'absence d'une formalisation scientifique de sa pensée est cause d'un manque criant de définitions, d'énoncés et de propositions sur lesquelles pourrait prendre appui le lecteur. » Un Landauer qui écrivait « La société est aussi ancienne que l'être humain. Elle est l'élément premier, ce qui est donné. L'idée qu'il associera aussi à l'entraide de Kropotkine et où l'instinct d'entraide est une forme d'esprit qui fait se tenir ensemble les êtres humains. Cependant, c'est dans l'actualité du moment, par le vouloir, le sentir, le savoir objectif, que l'individu fait avancer la communauté, mais c'est à côté de la société que l'État a historiquement fait son apparition. Citons Landauer. L'État est un rapport, une relation entre des êtres humains. C'est une façon qu'ont les êtres humains de se rapporter les uns aux autres. Et on le détruit en entrant dans d'autres relations, en se rapportant différemment les uns aux autres.
Moins d'affronter l'État ou le détruire que de s'y soustraire. Il s'agit de faire société. Il s'agit de s'en séparer et, nous dit-il, c'est donc avant tout en établissant d'autres rapports que l'on peut changer quelque chose à l'État et trouver des façons d'exister qui ne relèvent pas de lui. Landauer se déclarait tout à la fois anarchiste et socialiste. C'est d'un socialisme sans État qu'il se réclamait. Nous parlerions maintenant de socialisme libertaire. Landauer fut très tôt un anti-marxiste, ne faisant pas confiance aux prétendues lois de l'histoire. Pour lui, le prolétariat est un rouage du capitalisme, nullement capable d'enrayer la machine. Et la notion de classe tend à enfermer les individus dans leur apparence appartenance sociale d'origine. S'ils ne prônent pas la lutte de classe, pourtant, ils ne renoncent pas à la lutte. En 1901, il écrivait « Je souhaite ardemment que l'on se rassemble, que l'on œuvre en faveur du socialisme municipal, en faveur de colonies coopératives, de coopératives de consommation ou d'habitation, que l'on crée des jardins et des bibliothèques publiques, que l'on quitte les villes, que l'on travaille avec des pelles et des bêches, que l'on réduise sa vie matérielle à l'essentiel, afin de gagner de l'espace pour le luxe de l'esprit. » Ce qui n'empêchait pas sa parfaite conscience d'une récupération possible, tant par le capitalisme que par l'État, ou par ailleurs, du caractère temporel de ses expériences. Landauer fut un hérétique refusant de se plier à un système de pensée dogmatique et diffusant ses idées par une multitude d'articles, assumant son côté dérangeant.
Dans sa recherche d'une cohérence entre les moyens et les fins, Landauer adopta une ligne non violente, non dogmatique, qui s'arrêtait à la légitime défense, conscient pourtant que cette violence défensive pouvait se transformer en régime de la violence. Lecteur du romancier Tolstoï, excommunié par l'Église orthodoxe pour hérésie, il fut un admirateur de cet écrivain libertaire qui écrivait « Les anarchistes ont raison en tout, ils se trompent seulement sur l'idée que l'on pourra instaurer l'anarchie par la révolution. C'est un extrait du texte « Refus d'obéissance » écrit sur la Révolution, paru à l'Échappée en 2017, écrit de Tolstoï. On pourra de même s'intéresser au texte de Fritz Herter, né en 1869-1935, quasiment du même âge que Landauer, texte intitulé « Violence ou non-violence » paru chez la CL en 2015. L'original allemand a été publié l'année même de la tentative du putsch de Wolfgang Kapp, qui a duré du 13 au 17 mars 1920. Le propos de Fritz Herter était clair. Il parlait de lutte ouvrière, de grève solidaire et générale, de boycottage, de sabotage et de tant d'autres moyens d'action diverses, directes.
Si mettre en œuvre présentement des espaces de vie était une expression de Gustav Landauer, aujourd'hui, c'est Anna Krusinski qui nous donne à lire « Quartier en lutte, récits féministes et libertaires, Pointe-Saint-Charles, Montréal », paru chez ACL en 2023. Les espaces de vie, c'est l'usine, l'atelier, le village, etc. Ici, c'est un quartier où, au début du XXIe siècle, on assiste à l'apparition d'un militantisme inspiré des idées et des pratiques de l'anarchisme, déterminé par le municipalisme et l'écologie sociale de Murray Bookchin. Et ce qui est plutôt négligé par l'histoire officielle, c'est que ce militantisme tient sa force d'une épine dorsale, l'action des femmes de ce quartier. En 2004, Anna Krusinski écrit « J'ai appris que le changement social est un processus de longue haleine, une accumulation de moments, d'innovations, de conflits, d'avancées et de reculs, que tranquillement, pas vite, les normes culturelles changent, souvent de manière imperceptible, et qu'à un moment donné, il y a éruption, une cassure, et un moment de transformation radicale, et les choses ne sont plus comme avant. » Fin de citation. Dans la pratique, des convergences ou des coalitions ponctuelles s'organisent horizontalement pour déboucher sur l'action directe, la désobéissance civile, les moyens étant aussi des fins. Des tactiques de confrontation accompagnées d'une stratégie d'action à long terme ayant pour objet la construction préfigurative d'un monde meilleur. Et à la Pointe Saint-Charles, on assiste à la création du Jardin de la Liberté, du squat d'un bâtiment qui verra s'installer une épicerie coopérative, des ateliers de mécanique, des ateliers d'art et de photographie, un service de santé pour les familles, une garderie d'enfants, etc. Sans être au sens étroit du terme réformiste, il ne fait pas de doute que ces réformes peuvent engendrer des bénéfices concrets et immédiats dans la vie des personnes. Cela dit, ici et maintenant, que pourrions-nous donc faire, nous, libertaires aquitains ?
Alors, dans cette chronique de la désobéissance, André Bernard nous parlait du livre d'Anatole Lucet, Communauté et révolution chez Gustav Landauer, paru en 2023 aux éditions Klimskit. Alors, quelques éléments de contexte pour un rebond que nous allons faire assez resserré, nous allons bondir ensemble. Alors, Anatole Lucet, qui est-il ? Il est enseignant de philosophie, il s'intéresse à la philosophie politique, à l'histoire de la pensée politique et celle des mouvements sociaux, des communautés alternatives. Il a d'ailleurs soutenu une thèse en 2018 qui est « Communauté et révolution » chez Gustav Landauer. En publication, c'est ce livre qu'il vient de publier en 2023, son livre principal, mais il a contribué à de nombreuses revues par des articles, des chapitres d'ouvrages. On pourra citer, entre autres, « Peut-on faire une science de la Révolution ?» paru dans la revue Mauss, avec Jean-Christophe Angot, par exemple, dans la revue Brasero, un article intitulé « Des oisillons à contre-courant de la modernité ». Toujours dans la revue Brasero, c'était bien le numéro 1, « À Montevirita, naissance difficile de la contre-culture ». D'autres articles, on peut citer juste pour le plaisir des titres. L'éducation comme création de chez soi, chez Max Stirner, ou la Boétie, chez Landauer, du refus de la servitude à la construction de la liberté. Et donc tout un univers qui gravite autour de ces notions de lien, de culture à créer ensemble et de désobéissance pour l'émergence d'un monde nouveau. Gustave Landauer, on en a déjà parlé à Chaïra, mais rapidement, on peut dire que c'est un journaliste, écrivain, activiste politique. Il a été commissaire du peuple à l'instruction publique et à la culture dans l'éphémère République des Conseils de Bavière, avant d'être sauvagement assassiné par la milice, ça, nous le savons. Et donc, avant cet assassinat, il avait jeté les bases d'un socialisme libertaire qui alliait mettait en valeur la conception de communes libres et il le reliait à l'idée d'une révolution toujours ici et maintenant. Donc, toujours porteur d'une pensée libre, ouverte, généreuse, affranchie de tous les dogmes et extrêmement lucide. De Landauer et du livre, ce que l'on peut en dire, nous allons reprendre une présentation qui a été faite à la librairie Publico en décembre 23. Anatole Lucet avait présenté son livre. Et ce qu'il en était dit, c'était que Landauer était considéré un temps par la police et de l'Empire allemand comme l'agitateur le plus important du mouvement révolutionnaire social. C'était une figure insaisissable qui déjouait toutes les tentatives de catégorisation. Il était anarchiste et se méfiait des connotations trop négatives du mot en lui préférant celui de socialiste. Penseur du politique, il se définissait comme anti-politique en concevant le renouveau d'une communauté libre à petite échelle au sein même de la société existante. Et révolutionnaire, on sait qu'il récusait l'attente d'un grand soir et marquait sa réserve à l'égard de l'action violente. Il était le penseur de la communauté, il affirmait que la recomposition des rapports sociaux passait avant tout par la transformation intérieure des individus. Ce que l'on peut dire de ce livre et ce qu'ont mis en relief les camarades de la librairie Publico, c'est que ce livre s'organise autour de deux axes qui structurent la pensée de Landauer. Si la communauté permet de penser l'essence statique de la vie partagée, la révolution, quant à elle, s'inscrit dans la vie humaine et inscrit la vie humaine dans une dynamique sans cesse renouvelée. Et par ailleurs, il souligne que cet essai est le premier à présenter, à partir de textes et de leur contexte, une lecture synthétique et complète de la pensée de Gustave Landauer. Voilà, et que ça continue d'inspirer la réflexion politique contemporaine. Faut-il un petit éclairage sur Fritz Herter qui est cité?
Oui, bien sûr.
On en a le temps, à peine, mais très, très rapidement. Fritz Herter, donc une personnalité assez méconnue, il était né donc en 1869 et il est mort en 1935. Il était lithographe, écrivain, libraire. C'était un représentant de l'anarcho-syndicalisme, on peut dire déjà. Il s'était enthousiasmé dès sa jeunesse pour l'anarchisme non violent et il a été actif tout au long de sa vie en participant en particulier à la République politique soviétique de Furs. Alors peut-être qu'on aura l'occasion une autre fois d'en parler, qui n'a duré que 4 jours après la Première Guerre mondiale. Il a ouvert une bibliothèque de prêt, il a dirigé la rédaction du Syndicaliste et selon Rudolf Rocker, il est l'un des écrivains les plus doués du mouvement anarchiste. Voilà, donc sa critique à l'égard du national-socialisme montant était reconnue, il a été arrêté à plusieurs reprises, interrogé, brutalisé par les sections d'assaut, il a été emprisonné, il est sorti de prison très affaibli et il est mort très rapidement après à l'hôpital en 1935. On pourra indiquer que sur Fritz Herter, il y a eu une petite plaquette qui est parue aux ACL intitulée « Violence ou non-violence » et avec un sous-titre très beau « La folie très raisonnable d'un ouvrier syndicaliste libertaire ». Voilà, avec une préface ou un avant-propos d'André Bernard, d'ailleurs. Bon, on voit bien les références et les circuits de l'ami André. Et enfin, l'une des références du texte d'André, c'est Anna Krasinski, mais nous en avons déjà parlé, puisque ce texte d'Anna Krasinski sur les expériences au Québec, communautaires au Québec, a fait l'objet de la chronique de la désobéissance du mois de novembre dernier. Donc, nos éditeurs-auditoristes pourront s'y référer. Alors, André conclut, et je vais conclure là aussi, par une question. Et nous, Aquitains, que faisons-nous? Bon, alors, c'est vrai qu'il se passe des tas de choses ici aussi. On n'a pas le temps ici de détailler, mais on a commencé avec les camarades d'Achaïra à constituer une liste que l'on pourra ensuite développer et autour de laquelle nous pourrons rechercher. Oui, il y a des expériences solidaires et autonomes, autogérées, en Gironde, en France et en Gironde. On peut citer l'Athénée Libertaire, lieu autogéré depuis 1963, la librairie du Muguet, autogérée depuis 20 ans, et puis toute une série d'initiatives solidaires qui ne sont pas forcément estampillées anarchistes, mais enfin parlons des squats, de tous les squats de Bordeaux, nombreux, qui même démantelés se remontent immédiatement derrière, d'ailleurs. Il y a un squat à Pessac qui est en danger actuellement d'évacuation. Les nombreux soutiens, on pense à ce que font par exemple les enfants de Coluche, toutes les cantines solidaires qui existent, le club de boxe autogéré, il faudra en parler quand même un jour, qui se réunit et s'entraîne à l'Athénée Libertaire, les jardins partagés, poulailler de quartier à Pessac. Bon, le collectif Bienvenue qui œuvre aussi largement dans la solidarité. D'autres groupes comme Médecins pour tous, des radios associatives également. Bon, voilà. Bon, enfin, il y a plein de choses, tout ça à côté de structures qui sont dans l'émission, sont structurées et officialisées comme la CIMAD, la STI, Médecins du Monde, etc. Donc beaucoup de choses à dire prochainement. Mais arrêtons-nous là.
Alors, vous ne vous trompez pas, hein, vous êtes bien sur une émission anarchiste. Vous venez d'écouter pendant plus de 17 minutes Esmeralda. Philippe, la grande Esmeralda, notre timonière, grande timonière de l'anarchisme. Philippe, t'as fait traîner tes micros ?
Oui, voilà.
Attends, vas-y. Ah, non, ouais, voilà, c'est bon. Allez.
M'entendez pas. Donc, il y a eu ce vendredi à Bordeaux la projection d'un film de Yalini Zouloundas qui met justement en avant à la fois les solidarités, toutes ces, les squats, ce mouvement-là, et leur défense en Grèce.
Et c'est tout à fait en lien avec la chronique d'André. Complètement.
Et donc, il faut dire, voilà, le titre du film, c'est « Nous n'avons pas peur des ruines », donc qui est une citation d'un poème de Durruti qui est développé dans le film un petit peu. C'est, voilà, nous portons dans notre cœur un monde nouveau. Il y a cette phrase-là qui porte le film. Et donc, nous avons discuté avec Yanis Zouloundas, parce qu'il y a eu deux séances à Bordeaux, quand même. Donc, la grande salle de l'Utopia ne suffisait pas à répondre aux attentes du public bordelais, donc il a fallu faire deux séances. Et entre les deux séances, nous avons eu cet entretien avec Yanis Zouloundas, qui à la fois nous parle de la situation en Grèce, avec l'arrivée de Tsipras, de l'extrême droite, les luttes il avait dit en un mois, je vais éliminer les squats. Les squats continuent et ce mouvement de solidarité, il fait comme nous, il pollinise et il se disperse. Donc voilà.
On va écouter ça, et on rappelle que Yanis Zouloundas est un militant libertaire qui vit en France, qui est dans un groupe qui est encore à la Fédération anarchiste, pense.
Oui, dans le Tarn.
Et que l'on connaît depuis des années, puisqu'il fait un travail de fond, en profondeur, sur la question en Grèce. Allez,
avec
on écoute.
Avec sa compagne, Maud aussi.
Avec
Maud,
oui.
Ne l'oublions pas.
N'oublions pas.
Importante.
Bonjour Yanis, ce soir tu es venu présenter ton nouveau film « Nous n'avons pas peur des ruines » sur le mouvement social actuel avec le nouveau gouvernement. Est-ce que tu peux parler du film et de son articulation avec ces mouvements dans le contexte d'arrivée extrême droite en Grèce?
Oui, en fait, on a Tsipras qui a donc échoué puisqu'il a, entre autres choses, transformer le référendum qui avait dit non à l'orientation libérale de l'Europe en oui, puisqu'il a cédé devant la Troïka, c'est-à-dire la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI. Et donc, par la suite, évidemment, cette déception s'est traduite par un retour de la droite aux affaires et ainsi qu'une forte abstention. L'abstention a atteint quasiment 50% en Grèce. Il faut le situer par rapport à la Grèce. C'est un score énorme puisque le vote en Grèce est obligatoire. Donc, évidemment, la droite en a profité pour revenir. Une droite dure. Mitsotakis, héritier d'une grande famille de politiciens et avec plusieurs ministres d'extrême droite à ses côtés, notamment pour essayer d'éliminer, de nettoyer ce quartier du centre d'Athènes qui s'appelle Exarchia, dont on a souvent parlé, et qui est un endroit où se trouvent notamment beaucoup d'anarchistes, et pas seulement, mais c'est surtout quand même un quartier très libertaire et autogestionnaire, et qui aide aussi énormément les migrants, entre autres choses. Et donc, depuis l'arrivée de la droite au pouvoir en juillet 2019, on vit une nouvelle phase, une nouvelle époque. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé de reprendre du service et de reprendre la caméra en main. Chose difficile, hein, parce que ça a commencé par des violences néo-nazies, par des répressions policières, de la destruction de matériel. On a connu quand même beaucoup d'épreuves. Et puis, il y a eu la période du Covid au milieu aussi. Et finalement, de fil en aiguille, on a réussi quand même en 4 ans à vous proposer ce film qui tourne maintenant en France. Et c'est vraiment le produit d'un travail collectif qui raconte notre résistance et nos alternatives face à ce qui se passe en ce moment en Grèce, c'est-à-dire un durcissement du régime politique, de la pseudo-démocratie représentative qui pour nous est un oxymore. Et un peu comme en France, avec vous, avec le 49-3 et la répression policière, on voit un régime toujours plus autoritaire.
Oui, voilà, c'est Exarchia, donc c'est au cœur d'Athènes, mais le film montre des luttes dans bien d'autres endroits en Grèce, réappropriation de plages, lutte contre les aéroports. C'est un mouvement qui est donc diffus aussi, c'est une lutte large, beaucoup plus large.
Oui, mais en France aussi, il y a un mouvement de ZAD, un mouvement anti-autoritaire. Il y a des gens qui choisissent aussi la voie électorale de façon radicale, d'autres qui choisissent des luttes encore plus puissantes et en dehors de ce champ de façon plus révolutionnaire. Il y a des gens qui occupent des squats, et des gilets jaunes qui ont choisi une lutte spontanée qui au départ et semblait un peu secondaire vu la revendication initiale qui était le plein d'essence pour pouvoir aller au travail, et finalement qui est devenue une revendication démocratique de plus de droits et d'arrêter de se soumettre à un régime toujours plus autoritaire politiquement. Donc en fait, nous on vit un peu la même chose en Grèce, hein, sauf que bien sûr en Grèce il y a peut-être un peu plus de radicalité, notamment du côté anarchiste. Le mouvement anarchiste est très très présent en Grèce, notamment à Athènes, mais pas seulement. Et donc, il y a cette diversité dans les luttes. Et c'est vrai que c'est assez drôle de voir des gens manifester pieds nus, en maillot, à Paros, pour obtenir la libération de leur plage. C'est une forme d'action directe, hein. On appelle ça l'action directe. Donc, l'action directe estivale, on va dire, pour libérer des plages qui sont devenues complètement occupées dans certaines îles par des marchands de chaises longues et de parasols, qui, de surcroît, nous balance une musique techno, peu importe la musique, le style de musique, hein, à fond la caisse, à fond les oreilles, qui empêche même de s'asseoir sur les rochers aux alentours. Et donc, face à tout ça, en fait, c'est la mobilisation qui a réussi à faire tout basculer. On a repris la plupart des plages parce que le noyau dur a été suivi, accompagné, épaulé par énormément de mobilisation. En fait, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui permet de provoquer le point de bascule. Si plus de gens étaient prêts à donner un peu de leur temps, un peu plus de leur présence pour faire masse, eh bien, on arriverait plus souvent à nos fins.
Oui, parce que cette question de privatisation de l'espace public, on le retrouve partout avec les restaurants qui augmentent ici, dans les places publiques, etc. Aujourd'hui, où en est Exarchia? Est-ce que le rapport de force est terminé ou il continue?
En fait, le rapport de force n'est pas du tout terminé. Le pouvoir a fait une parenthèse après son échec de la fin de 2019. Même s'il a évacué quelques squats, il n'a pas obtenu le résultat qu'il espérait, un ultimatum qu'il a balancé à tout le mouvement social en Grèce, du nord au sud. Un ultimatum qui, à partir de novembre 2019, nous donnait 15 jours pour évacuer les squats ou se mettre en conformité en signant des contrats avec les propriétaires privés ou publics. Et ça a été un immense éclat de rire et on a même eu un soutien de la population. Il y a beaucoup de squats en Grèce, notamment dans le centre d'Athènes. Et du coup, le ministre en question, qui s'appelait Chrysoïdis, a abandonné son poste. Il a repris récemment, donc on se méfie à nouveau beaucoup. Mais globalement, Mitsotakis n'est pas du tout arrivé à ses fins. En 4 ans, il n'a pas réussi à évacuer le mouvement social Exarchia, même s'il a un petit peu affaibli. Mais en réalité, c'est un peu comme une fourmilière, c'est-à-dire que les fourmis sont allées tout autour dans les autres quartiers qui sont désormais encore plus puissants que par le passé. Et les fourmis ont même grimpé sur le pantalon du pouvoir, puisque, par exemple, Rovi Konas, le groupe, est allé jusque chez les ministres concernés. Donc, ce n'était pas une bonne idée d'aller embêter les anarchistes dans le centre d'Athènes et les autres anti-autoritaires et révolutionnaires qui sont vraiment pas prêts à se laisser faire. C'est vrai que face au pouvoir en France comme en Grèce, quand il a prévu tous les moyens possibles pour nous réprimer, nous contrôler, et notamment il y a un renforcement du budget de la police sans cesse et des moyens technologiques dont elle dispose. Il y a aussi une augmentation récente du budget de l'armée en Grèce, mais aussi en France. Je vous signale quand même que cette année en France, vous avez connu une augmentation du budget de l'armée de 40%. C'est quand même assez impressionnant, alors qu'on ferme des lits d'hôpitaux, alors qu'il y a des problèmes dans les écoles et dans plein de domaines de la vie, qu'il y a des gens qui ont faim, des étudiants qui font la queue au Resto du Cœur, des personnes âgées qui n'arrivent plus avec leur petite retraite à se payer des aliments qui coûtent de plus en plus cher à cause des intermédiaires qui s'engraissent dans le cadre du capitalisme. Donc, dans ce contexte-là, on voit bien que l'État, en Grèce comme en France, abandonne progressivement ses prérogatives punitives pour ne garder... ses prérogatives sociales, pour ne garder que ses prérogatives punitives. C'est-à-dire, en fait, l'État, soi-disant, qui devait redistribuer pour l'intérêt de tous, devient en fait un État qui, clairement, se démasque comme un outil au service des classes dirigeantes pour maintenir un ordre en place, pour être en fait le mur qui a pour vocation de nous empêcher de changer la société. Et donc, on voit en Grèce comme en France un pouvoir économique qui détermine le pouvoir politique au moyen de sa possession des médias dominants. Et c'est ce qui lui permet de favoriser les uns ou les autres qui vont ensuite servir ses intérêts. Donc en fait, nous ne sommes pas en démocratie. De plus en plus de gens s'en rendent compte, en Grèce comme en France. Et dès lors, la question se pose, quand allons-nous exiger et obtenir un changement radical de système politique qui nous permette enfin de plus avoir à descendre dans la rue sans cesse pour quelques miettes, mais pour prendre nos vies en main véritablement, chacun et ensemble, ici et là, à l'échelle des communes, à l'échelle de l'individu déjà aussi, et puis d'une autre façon, à d'autres échelles, en établissant d'autres formes d'organisation.
Une des forces du film, c'est de montrer qu'à côté de ces confrontations et résistances à l'État, c'est que le mouvement social, il répond à des questions des migrants, des pauvres, des plus précaires. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut aider ce mouvement social à travers de renvoyer la nourriture qu'il redistribue, par exemple, des choses comme ça.
Le mouvement social en Grèce, il essaie d'être exemplaire par rapport à la société qu'il désire. Et du coup, dans ce contexte, il a comme objectif de pratiquer l'entraide, la solidarité sous différentes formes, à commencer par les exilés qui ont le droit, d'après nous, de traverser les frontières, des frontières qui nous divisent, comme le pouvoir essaie de nous diviser de diverses manières. On connaît bien l'adage « diviser pour mieux régner ». C'est valable à toutes les échelles et notamment à l'échelle des frontières. L'accueil des migrants a été exemplaire, c'est-à-dire l'État de son côté a créé des camps de plus en plus fermés avec des barbelés à l'égard des visiteurs. Et le mouvement social, lui, a ouvert des squats de plus en plus nombreux pour les accueillir et a organisé des cuisines solidaires gratuites dont bénéficient à la fois les Grecs précaires mais aussi les exilés, sans qu'on s'intéresse plus que ça à leur origine. Ce sont des personnes vivantes, des humains en l'occurrence, et ce sont nos frères et sœurs sur cette planète. Et donc, nous n'avons aucune raison de ne pas être solidaires avec les uns autant qu'avec les autres. Et c'est vrai que toutes ces pratiques, structures autogérées de santé, bibliothèques sociales, squats d'hébergement, toutes ces initiatives ont montré toutes ces dernières années à la population quelle est la société qu'on désire. Une société dans laquelle, par exemple, la devise liberté, égalité, fraternité, elle prend tout son sens. En France, une devise pareille, elle est inscrite sur les monuments publics. On dirait que c'est pour faire oublier cette orientation, cette exigence à l'intérieur de ces bâtiments publics, alors que nous, on est vraiment pour et dans l'action pour la liberté authentique, l'égalité réelle, la fraternité universelle, ou sororité, ou adelphité. On est dans le concret, on est dans le dur, et donc on parle d'utopie qui sont déjà des actes, donc utopos, l'origine, parce que si c'est atopos, le lieu qui n'existe pas pour certains, dans ce cas-là, c'est le capitalisme, parce que le capitalisme nous propose une croissance infinie dans un monde fini, ça c'est une utopie. Donc pour nous, il faut sortir le plus vite de ce piège qui est la destruction de la vie, de la planète, la transformation de nos vies en robots et de toutes choses en marchandises, au risque de détruire complètement notre existence et tout ce qu'il y a autour. Donc il y a urgence de ce côté-là. Il y a urgence du côté des inégalités sociales. On voit de plus en plus de gens en Grèce comme en France qui n'arrivent plus à se nourrir à leur faim. Dans des pays occidentaux, c'est quand même quelque chose qui survient de plus en plus massivement, comme dans une situation de guerre. C'est comme si on était en guerre de ce côté-là. Et donc l'autre aspect qui est le principal pour nous, qui est la clé de tout, c'est le système politique. C'est jusqu'à quand allons-nous accepter que certains prétendent nous gouverner, nous diriger, nous voler nos vies, alors que nous sommes capables de nous organiser nous-mêmes. Si certains ont des doutes, par exemple, au sujet de l'autogestion, ils n'ont qu'à jeter un petit coup d'œil sur l'histoire de la sécurité sociale. La sécurité sociale est née, d'après le Conseil national de la Résistance, en mars 1944, avec pour objet de mettre un terme à toutes les tentatives du mouvement social qui, depuis les Canuts jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui avait pour vocation de créer de l'entraide et d'autogestion dans le mouvement social pour faire face aux accidents du travail, aux maladies, au chômage, à l'absence de retraite et beaucoup d'autres choses encore. Et enfin, quand les ouvriers qui avaient résisté avaient encore les armes de la résistance dans leurs mains et que les patrons qui avaient largement collaboré et ne pouvaient plus leur imposer la société qui les arrangeait, et bien du coup on a pu créer la sécurité sociale avec un budget encore plus important que celui de l'État et complètement distinct de l'État, même si cette autogestion a été détricotée au fil du temps. Mais rien que cet exemple seul suffit à prouver que l'autogestion c'est possible à très grande échelle, l'horizontalité c'est possible également à très grande échelle. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce sont déjà des actes. Et la question, c'est quand c'est qu'on basculera vraiment dans l'émancipation sociale, dans le choix de la liberté, de l'égalité et de la fraternité pour de vrai.
Voilà, toutes ces questions qui sont posées dans le film méritent d'être vues. À Bordeaux, il y a deux séances. Là, on est entre la se remplit. Première et la deuxième séance où il y a eu énormément de monde. C'est la grande salle qui se remplit. Mais tout le monde n'aura pas pu voir le film. Quelles sont les autres possibilités de voir le film, de rencontrer cette histoire?
On n'a jamais fait de livre ni de film en copyright, toujours en copyleft ou en Creative Commons. Donc évidemment, ce film, comme les précédents, sera gratuit sur Internet. Donnez-nous un peu de temps pour le finaliser et lui donner une forme plus longue. Alors, en cinéma, on se limite à 1h20 pour laisser du temps au débat. Mais sur Internet, ça sera une version plus longue, d'1h45, donc 25 minutes de plus. Et ça sera gratuit, on le mettra sur YouTube un peu partout. Nous sommes nos propres pirates, nous sommes des pirates, y compris de nous-mêmes. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. On reviendra dans la région quand même, on reviendra du côté de Libourne, du côté de Péchac et dans d'autres coins de la région à nouveau, sans doute du côté du mois de mai une fois. Et en novembre, décembre, par deux fois, sans doute. Voilà. Donc, on pourra quand même se voir pour des débats, des rencontres. Et puis, sinon, sur Internet, voilà. L'important, c'est de partager. On n'a pas besoin des médias du pouvoir, on l'a prouvé. Là, c'est la 25e projection de débat. Et partout où on va, il y a du monde. Et donc, on a vraiment pas besoin de ceux qui prétendent nous gouverner, nous informer, nous diriger, nous dire comment il faut faire, etc. Ces gens-là, ils achèteraient du sable dans le désert du Sahara, C'est des rigolos en costume trois pièces. Nous, on sait faire, on n'a pas besoin d'eux et on le prouve encore ce soir. Voilà, merci.
Mais écoute, merci Yanis, merci pour le film et tout ce qu'il porte. On a largement diffusé aussi ton entretien et les contacts pour voir le film sur Internet.
Et vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur le site du film, ça s'appelle paspeurdesruines.net. Paspeurdesruines.net, et il y a même un onglet concernant le convoi solidaire sur le site, et ça vous permet éventuellement de savoir ce que vous pouvez apporter pour aider les initiatives solidaires autogérées en Grèce, et même pourquoi pas venir si vous avez envie. N'hésitez pas, travaillons à nous rendre inutiles. Nous, on vous invite à venir avec nous et à découvrir vous-même ce qu'on vous montre dans les films. Voilà, merci.
À la pêche, à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils prospère sous la moire allongée. À la pêche, à la baleine, à la pêche, à la baleine, tu ne veux pas aller, et pourquoi donc? Et pourquoi donc que j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait propos? Voilà pépé, voilà pêcher toi-même puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Alors dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démontée. Et voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère, et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière au bouillon. La mer était mauvaise, mais la soupe était bonne, et voilà sur sa chaise le Prospère qui se désole.
À la pêche, à la baleine, je ne suis pas allé. Et pourquoi donc j'y ai pas été? Peut-être qu'on l'aurait attrapé, alors j'aurais pu en manger.
Mais voilà la porte qui s'ouvre et ruisselant d'eau, le père apparaît hors d'haleine en tenant la baleine sur son dos. Il jette l'animal sur la table, une belle baleine aux yeux bleus, une bête comme on en voit peu, et dit d'une voix lamentable:
dépêchez-vous de la dépêcher, j'ai faim, j'ai soif, je veux manger.
La faim, la soif, il veut manger.
Mais voici Prospère qui se lève, regardant son père dans le blanc des yeux, dans le blanc des yeux bleus de son père, bleu comme ceux de la baleine aux yeux bleus.
Et pourquoi donc je dépêcherai une pauvre bête qui m'a rien fait? Tant pis, j'abandonne ma part.
Puis il jette le couteau par terre, mais la baleine s'en empare.
Et se précipitant sur le père, elle transperce le père en bas. Oh
oh, dit le cousin à Gaston, ça me rappelle la chasse aux papillons. Et voilà.
Voilà Prospère qui prépare les faire-part, la mère qui prend le deuil de son pauvre mari.
Et la baleine, la larme à l'œil, contemplant le foyer détruit. Soudain, elle s'écrie, et pourquoi donc que j'ai tué ce pauvre imbécile? Maintenant, les autres vont me pourchasser en mode que dire, et puis ils vont exterminer toute ma petite famille. Alors éclatons d'un rire inquiétant.
Elle se dirige vers la porte et dit à la veuve en passant: Madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez, la baleine est sortie, asseyez-vous, attendez-la
dans une quinzaine d'années.
La pêche à la baleine de Jacques Prévert par les frères Jacques, quatuors bien connus. Alors Jacques Prévert, nous en reparlerons dans l'éphéméride tout à l'heure. Et une anecdote sur les frères Jacques, André et Georges Bellec, deux de leurs membres, ont vécu à Bordeaux. Après son baccalauréat, André entame une licence de droit et s'inscrit en parallèle au conservatoire de Bordeaux. et y obtient un deuxième accessit de comédie. Et Georges s'oriente vers l'école des Beaux-Arts de Bordeaux. Voilà.
C'était un passage de l'émission Achaïra, émission de pollinisation des idées libertaires, diffusée en direct sur notre antenne le premier lundi du mois de 20h à 22h et que vous retrouvez en intégralité sur notre site laclédesondes.fr.
Vous êtes bien sur La Clé des Ondes 90.10, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau. Programme éclectique.
Bring to me some comfort. 90.10, la clé des ondes.
في حبس البعد شحال حسبت زمن في سجن البعد شحال انسجت
وصلت ما غابش واقعي